Salut la team Palabre, bienvenue sur Palabre 2.0, votre podcast qui croise le regard de deux générations sur des sujets de société. Hello, hello, bonjour la team Palabre, heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode avec Tonton. On va aujourd'hui parler en fait de l'immigration. Et Tonton, en fait, en quoi ça concerne, qu'est-ce que c'est l'immigration, quel regard notre génération porte sur la génération d'immigration de nos parents et comment la diaspora vit son immigration aujourd'hui. Un sujet qui soulève beaucoup de fantasmes après les périodes électorales et qui est toujours au fait de l'actualité. Je m'en vais de ce pas rejoindre Tonton sous le Baba pour parler avec Tonton de ce thème de l'immigration. Bonjour Tonton, comment vas-tu?
Bonjour Yves, je vais très bien, je te remercie. Et toi-même?
Très très bien Tonton, très très bien. Comme tu l'as entendu Tonton, aujourd'hui nous allons parler de l'immigration. Est-ce que tu es à l'aise avec ce sujet?
Effectivement. C'est un sujet très intéressant dans la mesure où je me sens moi-même concerné. Je suis parti. Depuis la nuit des temps, les hommes partent, toujours en quête d'une vie meilleure. Tu sais, la bouche qui a tété n'oublie jamais la saveur du lait.
Exactement, Tonton. Et pour comprendre aussi et se mettre en fait en raccord avec les personnes qui nous écoutent, avec les palabriens, qu'est-ce que t'évoques ce mot immigration?
Immigration. je vais le dire avec mes mots, avec mon cœur. Le fait de partir d'un continent à un autre, d'un lieu à un autre, laissant derrière soi sa structure familiale, en quête d'une vie meilleure, c'est ça l'immigration, s'immigrer, partir. Ce qui me préoccupe, moi, ce n'est pas le fait de partir, d'être parti, c'est le fait de ne pas revenir. Nous avons un devoir moral, celui de transmettre, partager notre expérience. La beauté de la vieillesse, c'est dans l'éloquence de son récit.
Waouh, Tonton, c'est très beau et tu es bien éloquent comme toujours.
Merci.
Mais pour rester un peu, Tonton, sur revenir, hein, on va évoquer tous ces sujets-là dont tu as fait référence, je perds mon français, à l'instant, on va
rester un peu, ton latin, carrément.
On va rester un peu, Tonton, à l'époque avant la colonisation. Ça m'intéresse de faire un peu d'histoire pour les plus jeunes qui nous écoutent, et même pour les personnes de mon âge qui sont un peu en quête de référence là-dessus. Est-ce qu'avant la colonisation, les Africains étaient amenés à venir en Europe?
Effectivement, plusieurs d'ailleurs. Pour avoir plus de précisions, j'invite les personnes qui nous suivent à se rapprocher des historiens.
Effectivement, parce que je rappelle quand même qu'il y a beaucoup de débats là-dessus. Les débats font rage entre les historiens, entre les dates, les personnalités. Est-ce qu'elles ont été vivantes ou pas? Est-ce que ce sont des personnages inventés ou pas? C'est vrai qu'il y a beaucoup de confusion là-dessus.
Définir la chronologie.
Exactement, exactement. Tonton, est-ce que du coup, on va faire un grand saut en avant? Avant la colonisation, on parlait de tes parents. Est-ce que la génération de tes parents venait souvent en Europe?
Oui, mais pour des missions ponctuelles. Des commerçants venaient pour faire des affaires, et les politiciens venaient pour négocier, et les gens venaient en vacances.
D'accord.
Et pas pour y rester.
Ok, donc c'était des allers-retours.
Des allers-retours. Venaient. Donc, moi, j'ai eu la chance dans ma famille d'avoir des gens qui sont venus pour des raisons diverses.
Alors, donc, pourquoi tu dis que c'est une chance?
La découverte de l'autre.
La découverte de l'autre. Chance. D'accord. Ok, dans ce sens-là.
Voilà. La vérité se trouve derrière la montagne.
Totalement. Donc, il faut aller voir, il faut la gravir pour voir ce qui se passe de l'autre côté. Mais est-ce que toi, Tonton, est-ce que tu faisais partie de la génération qui rêvait de venir en Europe?
Évidemment.
Évidemment. Évidemment.
Nous avons tous rêvé de l'Europe, croyant que c'était le paradis. Nous avons rêvé d'y aller, nous avons vu l'Europe. Et les voyages forment la jeunesse.
Alors, Tonton, c'est un peu étonnant parce que souvent dans les épisodes, tu me racontes comment... vivre au Congo était confortable à ton époque, tu faisais du tennis, tu étais bien instruit, tout allait très bien à ton époque, mais tu rêvais quand même d'un ailleurs. Comment t'expliques ça?
Partir, toujours partir, telle est la loi suprême. L'homme est amené toujours à partir, vérifier, voir ce qui se passe, assouvir ses fantasmes. Voilà. On est parti, je suis parti, je suis venu, je suis parti et j'ai découvert.
D'accord.
Vidi Vici.
Et qu'est-ce qui t'attirait en Europe à cette époque-là?
De prime abord, quand je suis venu, je me souviens de mon voyage, c'était l'urbanisation des villes. Je trouve que les villes étaient super urbanisées.
Urbanisées, non pas ubernisées. Urbanisées, ok.
J'étais impressionné par l'administration, l'organisation et le choc de l'inconnu aussi.
D'accord.
Vous savez, l'esprit humain est très excité quand il est en face de l'inconnu. Et c'était vraiment un bel exercice.
Ok, Tonton. Je comprends. Et du coup, alors, toi, t'es arrivé en Europe en quelle année? T'avais quel âge?
En 86, mais d'accord, je te dirai pas à quel âge. On ne demande pas... J'étais très jeune. Hein.
Okay.
On ne demande pas à un homme son âge.
Ok. Directement en France?
Directement à Orly. C'était en août 86.
86.
Directement à Orly.
Et du coup, entre les regards de la Gerson de tes parents et la vision que tu avais, est-ce qu'elle était conforme une fois que tu arrives en France?
De prime abord, non, parce que le choc culturel. Bon, moi, j'ai eu cette chance d'avoir une famille qui vivait déjà en France, mmh, depuis belle lurette.
D'accord, d'accord.
Depuis belle lurette. Et quand elle revenait de la, en vacances, hein, elle nous parlait avec éloquence de la, mmh, France. Mmh. Et le pays des droits de l'homme, la culture, la mode.
Ok.
Tout, moi tout, qui suis furie de la mode. Donc...
Ok. Ok, Toto. On va essayer de rentrer, Toto, si tu veux bien, parce que c'est important pour les palabriens et palabriennes qui nous suivent, d'essayer de rentrer dans ton parcours, mm-hmm, dans ce parcours d'immigré. Mm-hmm. Est-ce que tu veux nous parler de ton parcours de jeune immigré en France? Comment il était?
Waouh. Un parcours semé d'embûches et d'épreuves, mm-hmm, mais dont je suis fier. Mm-hmm. Pour la première fois, j'étais confronté à moi-même, mmh, sans ma mère, j'étais perdu. Mmh. Heureusement qu'on s'est beaucoup parlé, elle et moi, avant mon voyage, avant, okay, que je ne vienne. Elle était de très bons conseils. Mmh. J'ai appris de ma mère qu'on n'obtient rien sans peine, même si l'on est doué.
Super, des très beaux conseils, tonton. Mmh. Ok. Et alors, qu'est-ce qui a été le plus dur, tonton, dans tout ça?
J'ai eu du mal à m'adapter, déjà sur le plan climatique. Mmh. Mon premier hiver, j'ai cru que c'était...
le dernier.
C'était le dernier. J'ai eu vraiment du mal à m'acclimater. Ensuite, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup d'individualisme. Chacun était chez soi. Mm-hmm. Même quand on sortait de la fac, chacun regagnait sa chambre. Mm-hmm. Et pour ne se revoir que le lendemain.
Quand il y a une activité, quoi.
Quand il y a une activité. Okay. Et le chacun pour soi, ça m'a vraiment posé problème. Mm-hmm. Et voilà.
Mais tu t'es habitué à ça, tonton?
Je pense que si, sinon je ne serais pas resté.
D'accord, d'accord. Et tu peux dire que tu te sens bien entre tes deux cultures?
Je dirais oui. Okay. En tout cas, aujourd'hui, je suis, okay, très confortable entre mes, d'accord, deux cultures, oui.
D'accord. Et je parlais d'un terme plutôt qui revient assez souvent, c'est l'assimilation. Mm-hmm. On l'a entendu pendant la période électorale. On a beaucoup, beaucoup parlé d'assimilation. Est-ce que toi, tu as dû t'assimiler, tonton?
Il convient à un homme de s'adapter dans l'environnement dans lequel il vit. Mmh. L'intégration ou l'assimilation, je ne sais pas. Mais une chose est vraie, je ne suis pas un nègre de maison.
Nègre de maison. Et pourquoi tu dis ça avec beaucoup d'affirmations, donc que tu n'es pas un nègre de maison? Pourquoi c'est important de le dire?
Simplement parce que j'ai... mes valeurs qui sont miennes, mmh, j'ai une culture qui est la mienne, mmh, tel un arbre qui est bien ancré, je suis très ouvert à l'humanité.
D'accord, d'accord, d'accord. Et est-ce que tu as été confronté au racisme durant ces périodes-là de jeunes immigrés?
Certainement, mais je n'ai pas d'exemple probant. Mmh. Comme chacun de nous, hein, Dieu merci, je ne suis pas moi-même raciste, mmh, c'est ce qui fait que j'ai eu du mal à comprendre les racismes.
D'accord. Mais pourtant, alors tonton, c'est vrai qu'il y a toujours une notion qu'on rappelle dans nos épisodes, et on est toujours confronté à ça, la différence entre le racisme et le tribalisme. Tu n'as pas été confronté au tribalisme au Congo? Tu es un Mlouba, tu ne vas pas avec mon Congo, ou tu ne vas pas avec un tel, est-ce que tu as vécu ça, toi?
Directement, non.
D'accord.
Mais indirectement, si.
Ok, ok.
C'est-à-dire, on en parle comme ça, il y a, mm-hmm, des gens qui sont tribalistes, mm-hmm, hein, ou alors un jeu de rôle.
D'accord.
Tu viens du Nord, je, okay, viens du Sud. Ok, ok. Les gens qui parlent du régionalisme, mmh, les gens qui parlent des races, mmh, il y en a toujours. Mmh. Et le monde est ainsi fait.
Bien sûr.
Voilà, le monde est ainsi fait. Mais je ne peux pas souvenir moi-même d'avoir vécu une situation désagréable du fait de ma peau noire ou du fait d'être Mulumba ou Mukongo.
D'accord, ok. Et tout le temps, alors rappelle-moi, c'est vrai que tu es venu en Europe, tu as sûrement dû aussi être confronté à d'autres populations africaines. Sénégalaise, malienne, j'imagine, hein, que peut-être que tu côtoyais pas aussi souvent au Congo. Et comment ça s'est passé, cette cohabitation avec les autres pays d'Afrique?
Très bien. Mmh. La solidarité. Dans mon cœur, j'ai beaucoup d'amitié pour beaucoup d'Africains. Mmh. À chaque fois que j'organise une fête, je n'ai pas que les Congolais, mmh, ni les Français chez moi. Mmh. j'ai des Sénégalais, j'ai des Béninois, j'ai des Camerounais, et qui font aujourd'hui partie de ma vie.
Mmh. Mmh. Ok, ok, je comprends. Donc une ouverture totale, et la cohabitation n'était pas difficile.
Tel un arbre, je suis ancré, et mon cœur est ouvert.
Ok. Alors, tonton, est-ce que tu trouvais que la France était plus tolérante à ton époque que maintenant ?
Je me pose la question de savoir à quel moment la France sera tolérante.
Mmh.
Elle a imposé sa puissance par le sang, partout où elle était en Afrique. Et la relation entre la France et ses colonisés, ses pays colonisés, n'ont pas toujours été au beau fixe.
Mmh.
Donc, je me pose la question.
D'accord, d'accord. Mais on va essayer de réfléchir là-dessus, parce que ça m'interpelle ce que tu dis. Mine de rien, on ne va pas revenir sur le rapport France-Afrique qui sont assez complexes et c'est la géopolitique en pas rentrer dedans.
Mm-hmm.
Mais dans le fait que tes parents puissent venir en France, que tu sais que tu es assez fréquent, assez impliqué dans le monde associatif,
mm-hmm.
associations culturelles, sénégalaises, mm-hmm. maliennes, mm-hmm. congolaises, tout ce qu'il y a. Est-ce que tu penses que c'est un manque de tolérance de la France à ce niveau-là ? Dans son implication sociale ?
Non. Je vais être beaucoup plus clair.
Mm.
Je ne peux pas parler des relations entre la France et l'Afrique aujourd'hui qu'à partir d'aujourd'hui.
Mm.
C'est-à-dire que je me plonge aussi dans l'histoire.
Mm.
Comment l'histoire a évolué.
Mm.
C'est vrai, aujourd'hui, la France, nous la vivons nous autrement.
Mm.
Mais nos grands-parents
mm.
l'ont vécu comment ?
D'accord.
Les tireurs, voilà,
les tirailleurs et autres.
Les tirailleurs,
okay, je comprends.
Voilà.
Je comprends.
Mais j'ai l'impression que les relations entre la France et ses pays colonisés ont beaucoup évolué.
Et les relations entre la France et ses enfants français d'origine africaine, est-ce que tu penses qu'elle évolue ou pas ?
Oui, moi je pense que la France a fait un effort énorme en mm-hmm. tant qu'outil.
Mm-hmm.
Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus le français d'origine. Quand mm-hmm. tu es français, tu es français.
Tu es français, exactement. Mm-hmm. Alors, Toton, selon l'INSEE, en 2021, 47% des immigrés vivant en France sont nés en Afrique. Tu vois, donc 47% mm-hmm. des Français vivant en France sont nés en Afrique. C'est presque la moitié, ce qui est beaucoup. Qu'est-ce que ça t'évoque, ces chiffres, tonton ?
C'est pas assez, à mon avis.
Pas assez ?
Pas du tout. La France a colonisé la plupart des pays africains.
Mmh.
Et, n'est-ce pas ?
Mmh. Oui, oui.
Donc, pour moi, c'est une suite logique.
D'accord.
Un enfant n'est pas que de chez ses parents.
Mmh.
Donc, c'est logique que j'aille voir mes parents, vivre chez mes parents et partir un jour.
Donc, tu es pour la théorie du grand remplacement, alors ?
Pas forcément, pas forcément. Nous avons cohabité ensemble.
Mm-hmm.
La France a cohabité avec ses pays colonisés. On ne parle pas ici de la colonisation qui était mm-hmm. difficile. C'est normal que voilà.
Alors, attends, dis-moi, dans tout ça, qu'est-ce que la France t'a apporté ?
La France m'a beaucoup apporté.
Mm-hmm.
Une autre façon de voir les choses.
Mm-hmm.
La culture, l'accès aux soins, les droits de l'homme, la démocratie telle qu'elle est libellée. J'aime la France. Comme disait le président Tshisekedi, il aime la Belgique parce que c'est son autre Congo.
D'accord.
J'aime la France, c'est mon autre Congo.
Okay. Ok, d'accord. Je pensais que le Congo était un unique, mais il y en a plusieurs apparemment, ok.
C'est une question de perception. Parce que quand j'ai envie de manger congolais, je mange congolais en France.
Mmh. Mmh.
Quand j'ai envie d'écouter la musique congolaise,
j'écoute en France.
Voilà, j'écoute en France.
Mmh.
La France a permis aujourd'hui que la musique congolaise ils prennent place.
Mmh. Mmh.
Quand on parle de Maître Gims, de Dadju, c'est des enfants du pays mmh. qui aujourd'hui défendent la culture française, la culture à la fois française mmh. et congolaise.
Mmh. 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 Alors, j'ai une question qui me titille un peu. C'est vrai que tu parles beaucoup de l'Afrique, tu as beaucoup voyagé en Afrique. Et pourquoi, étant jeune, vu qu'il y avait cette culture entre les peuples africains, tu n'as pas voulu immigrer dans un pays d'Afrique ?
Parce que...
Et la France directement.
Oui, parce que je pense que tout, pour tout Africain, voir la France un jour, c'est un rêve. On a tous rêvé un jour de voir la France. Ses monuments, son architecture,
mm-hmm.
ses bâtisses,
mm-hmm.
la mode, la culture, les droits de l'homme. Mm-hmm. On en a tellement entendu parler que il fallait voir la France.
D'accord.
Il fallait voir la France. La France a fait sa propagande.
Ok, ok. Et tu penses que c'est une bonne chose, ça, tonton ? Qu'il puisse, qu'il n'y ait pas de voyage inter-africain, qu'il n'y ait pas cette même renommée, cette même propagande d'autres pays au Congo, en Afrique, pour que les peuples puissent se connaître ?
c'est aussi un problème de volonté politique, de volonté de nos dirigeants. Parce que j'ai du mal à comprendre comment prendre un billet de Kinshasa à Dakar est plus cher que Kinshasa à Paris.
D'accord. Ouais, les volontaires sont beaucoup plus chers, quoi.
Voilà. Donc, c'est aussi à nos dirigeants de développer cette cohésion régionaliste.
Alors, dans cette volonté aussi, ce regard de absolument venir en Europe, comme tu le dis, en France notamment, ça donne aussi des dérives. Hein. On voit de ces jeunes qui meurent en bateau dans les côtes italiennes, dans la Méditerranée. Est-ce que c'est pas ça aussi des dérives de l'autre côté ?
Oui, Yves. C'est immoral de profiter de la naïveté des autres. Je plaide pour la jeunesse. Elle doit avoir un projet de vie. Elle doit être jalouse de son énergie et en profiter pour laisser de traces. Que vaut une existence sans traces ?
Totalement. Totalement, totalement. C'est vrai que cette énergie-là, eh bien, elle se perd dans les eaux troubles remplies de sang aujourd'hui par cette jeunesse désespérée qui veut absolument venir en Europe pour vivre et être confrontée à la même chose. Est-ce que quel regard tu portes ? Moi, je me dis que c'est quand même étrange parce qu'on remonte parce que 30 ans en arrière, il y avait encore cette vision de venir en France coûte que coûte. 30 ans après, il y a encore cette même envie, sauf que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, peut-être par l'effet des médias, toujours autant d'enfants meurent pour venir en France. Ta génération, qu'est-ce qui lui incombe dans ces tragédies-là ?
Tu sais, tout à l'heure, j'ai dû parler. Le plus grave pour moi, Yves, ce n'est pas le fait de partir, c'est le fait de revenir. Je m'explique. On est parti. Je parle en termes de génération.
Totalement.
On a vécu des expériences. Mauvaise ou bonne. On a fait des études, on a travaillé. Il est normal qu'à un moment donné, nous protégeons notre jeunesse. Il faut qu'on reparte au pays, parler à nos jeunes, les structurer, les faire en sorte qu'ils soient beaucoup plus normés, les former pour qu'ils deviennent de plus en plus compétitifs en restant chez eux.
Je comprends, tonton. Alors moi, je suis un peu jaloux. Je te cache pas, je suis un peu jaloux. Je vais te parler en termes un peu de génération. J'ai l'impression qu'il y a un clivage. Que, au bout d'un moment, il faut à ce moment que les parents retournent en Afrique pour aider les Africains, tu sais. Et nous autres, nés ici, quasiment dans des conditions de temps français, on est toujours confrontés aux problèmes de discrimination, d'emploi, de formation, d'apprentissage et d'accompagnement. Et j'ai l'impression que vous, nos parents, vous avez aussi, pardon l'expression, vous êtes aussi, je vais rester poli, sous le baobab, vous êtes aussi tiraillés entre la formation des Africains sur place, et une génération ici qui est un peu délaissée, qui a du mal à sortir son épingle du jeu. On est fiers aujourd'hui d'avoir une Rachel Keke comme députée, mais c'est normal en fait. Et aujourd'hui, sauf qu'on en est ému parce que ce n'est pas normal. Votre génération, encore une fois, même question, qu'est-ce qu'elle vous incombe, cette Rachel Keke qui est exceptionnelle alors qu'elle ne devrait pas ?
Oui, moi c'est une femme que j'aime beaucoup son parcours, Rachel Keke. Ce qui me plaît dans ce qu'elle est aujourd'hui, c'est que ce n'est pas une femme qui a fait des grandes études. Elle était femme de ménage, ma mémoire est bonne. Donc, elle vient d'un milieu assez populaire et elle accède à l'Assemblée nationale. C'est cette démarche qui me plaît. C'est cette énergie, cette envie que nous devons souffler à nos enfants aujourd'hui. Cette énergie. Alors, cette histoire des enfants d'ici, qui ont besoin de nous, je pense que tout enfant a besoin de ses parents.
Totalement.
Au-delà de l'aspect physique, c'est l'esprit qu'on insuffle aux
totalement,
autres.
Totalement.
L'esprit qu'on insuffle aux autres. Être père, ce n'est pas toujours être présent, mais c'est faire en sorte, mettre de process de telle manière qu'on se souvienne de soi, même après sa mort. Qu'a-t-il fait ? Qu'a-t-il dit ? Que vaut une existence sans trace ?
Totalement, totalement. Et ça, c'est un combo aussi aux parents, quoi.
C'est un combat à tout le monde.
Tout le monde.
Aux enfants,
oui.
De comprendre l'énergie des parents.
Totalement.
Et aux parents.
Comprendre l'énergie des parents.
Des enfants.
Je comprends. Tonton, on reste encore dans cette volonté absolue de venir en Europe et ses dérives. Il y a un phénomène des tatas. Ce sont des femmes qui font venir des jeunes filles en Europe qui ensuite les forcent à se prostituer. Est-ce que tu connais ce phénomène ?
Oui.
Qu'est-ce que tu en penses ?
Je le dénonce. Je connais ces phénomènes, je le dénonce. Mais tout ça, je pense que c'est à cause de la pauvreté. Ces jeunes peuvent bien rester en Afrique, apprendre un métier, cultiver la terre, trouver une occupation, excusez-moi, valorisante.
Plus valorisante.
Oui. Il appartient à la diaspora de s'organiser en association, fondation, ONG, je ne sais pas quoi, que sais-je encore, pour que chacun transmette son expérience, transmette son métier, son savoir-faire et son envie de, de voir le continent s'épanouir.
Je suis d'accord avec toi, le fait, je suis passé, je trouve ça triste, je suis passé au Bois de Vincennes tard en rentrant et j'ai vu tout sur deux lignes, en fait, des deux côtés de la route, une ribambelle de jeunes filles noires en train de se prostituer. Et je me dis, tiens, et quand on regarde les reportages, quand on entend ce qu'on entend, quand on entend ce qui est dit dans nos familles, c'est souvent, en fait, comment dire, l'exploitation des hommes, femmes du même continent qui viennent détourner la vie de ces jeunes enfants parce que les parents se disent qu'en Afrique, il n'y aura rien, veulent partir ailleurs. Or que quand je t'entends, il y a tellement à faire aussi sur le continent en termes de terres agricoles et autres. Et encore une fois, est-ce que ce n'est pas là l'échec aussi d'une volonté de toujours voir ailleurs plus beau que chez soi ?
Toutes les religions, à mon avis, hein, je partage ton point de vue, toutes les religions t'enseignent à vivre de l'intérieur avant de s'extérioriser. Le problème aujourd'hui en Afrique, moi je pense que l'Africain ne regarde plus l'Afrique. Il pense que le bonheur est ailleurs. Au lieu de regarder ce qu'il peut faire, ce qu'il peut devenir chez soi. Voilà, donc il y a tellement de choses à faire en Afrique. Il y a tellement de choses. Quand je vois un pays comme le Congo qui a plus ou moins 100 millions d'habitants. En termes marketing, en termes économiques, un marché de 100 millions d'habitants.
C'est énorme.
Il nous manque simplement de l'invention, de la créativité, de la réflexion. Qu'est-ce que je peux vendre à 1 million d'habitants pour gagner un euro par jour, par exemple, ou 1 euro par mois? À la fin du mois, je suis millionnaire.
Totalement, totalement. Et Toton, alors du coup, quel regard, enfin quel conseil plutôt qu'un regard tu donnerais et à ma génération et à la tienne? Quand c'est ma génération, par rapport à ce flux migratoire, au fait qu'arriver ici en Europe, il faut s'intégrer, il faut être à jour en termes de papiers administratifs. Quel regard tu donnerais d'abord à ma génération là-dessus, sur cette volonté d'immigrer?
Vous avez une grâce d'être né ailleurs. C'est-à-dire que vous êtes né dans le pays où vos parents sont immigrés. C'est votre pays. Obi bene, obi patria. C'est votre pays. Faites en sorte que vous soyez le mieux possible dans ce pays-là. Ceci dit, les parents doivent aussi vendre leur culture à leurs enfants pour que demain, ces enfants-là soient investisseurs en Afrique, qu'ils investissent en Afrique, mais dans des process et dans des normes.
Ok, ok. Et quel conseil tu donneras à ta génération, toi qui as vécu ça, qui a émigré, sur un parent qui vient en Afrique, au Congo, au Sénégal, qui va envoyer ses enfants en Europe? Quel conseil tu lui donnerais?
De faire très attention.
À quoi?
À l'immigration. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Pourquoi? Parce qu'on dépense beaucoup d'argent pour que nos enfants viennent étudier en Europe. Pardon. Je parle des gens qui partent avec leur bac pour venir faire des études ici. Ma réflexion est que pourquoi on ne fait pas en sorte qu'on ait les meilleures universités, qu'on ait des centres de formation compétitifs en Afrique? Donc, mon conseil aujourd'hui à ma génération, réfléchissons ensemble pour que nous créions le meilleur centre de formation, les meilleures universités, qu'on puisse donner le meilleur conseil à nos enfants, parce que nous avons l'expérience.
Totalement.
Nous sommes partis. L'expérience rend sage, dit-on. Donc aujourd'hui, on doit se comporter en homme sage.
Sage. Ok. Ok, tonton. Tonton, je te remercie beaucoup pour cet épisode. C'est le dernier de la saison. Oui. En tout cas, je te quitte avec beaucoup d'émotion. Mais je te retrouve aussi avec beaucoup de bonheur la saison prochaine sous le Baobab, avec des nouveautés, je t'en parlerai.
Naturellement,
Le Baobab va peut-être s'ouvrir à 3 personnes pour des épisodes. En tout cas, on est en réflexion avec ton accord, bien évidemment. Et on va terminer cet épisode, comme d'habitude, tonton, avec une citation pour laisser l'été à nos palébriens et palébriennes de pouvoir réfléchir à tes belles paroles.
On ne peut pas peindre du blanc sur du blanc, le noir sur du noir. Chacun a besoin de l'autre pour se révéler.
Merci, tonton, pour ces belles citations.
Je t'en prie.
Merci à vous, les pèlerins, d'avoir suivi toute cette saison. On vous retrouve en septembre pour des nouveaux épisodes, des nouveaux thèmes, avec des nouveautés aussi qui vont être supposées tout au long de l'année. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas en fait, à partager l'épisode, ce qui est diffusé sur toutes les plateformes de streaming, et à l'écouter, à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt, passez un bel été, et à très vite, les pèlerins. Bye bye.
Prenez soin de vous. Au revoir.
Quand on se réveille, on a la gueule de bois, soirée de la veille. Certains ont dormi et d'autres non. C'est le cas de notre troisième dont on ne connaît pas le prénom. De à quoi pas qu'à la vie en passant par l'étoile. Pissé dans des buissons en guise de toilette. Quand on se réveille, city, les rues sont pas nettes. Bienvenue dans ma ville, bienvenue sur ma planète. Zéwe entre les petites et les grosses caisses. Les lunettes et les grosses dames.